Afrique, les infos à Washington.
Bonjour, il est midi à Sanje, Rumphi Nzimba au Malawi. Bienvenue à ce bulletin à la présentation Nani Totalani. En Côte d'Ivoire, la révision de la Constitution annoncée fin 2019 par le président Alassane Ouattara sera proposée au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès à Yamoussoukro le 17 mars. Le point avec Bagassi Koura.
Le président ivoirien n'a pas encore dévoilé les modifications qu'il compte présenter vendredi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Il pourrait toutefois les annoncer aujourd'hui pendant son discours annuel sur l'état de la nation devant le Congrès. Le calendrier prévoit aussi une modification de la loi électorale qui devrait être présentée le 28 mars devant l'Assemblée nationale. Une fois présenté au conseil, le texte sera soumis au vote le 17 mars par les deux chambres réunies. Le Congrès ivoirien doit valider toute modification de la Constitution à une majorité des deux tiers et à défaut tenir un référendum. La coalition de M. Ouattara dispose d'une majorité écrasante dans les deux chambres. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Il laisse planer le doute sur une possible candidature à un troisième mandat.
Au Mali, le Premier ministre est arrivé hier à Kidal. Le chef du gouvernement est venu à la rencontre des populations. Boubou Cissé et sa délégation ont commencé la visite par l'étape de Sétalite, où ils ont rencontré les forces de Tessalite et les forces armées maliennes, ainsi que les casques bleus de la MINUSMA, avant d'arriver en début de soirée dans la ville de Kidal. De Kidal, une correspondance de Kassim Traoré.
En se rendant dans la région de Kidal, Boubou Cissé dit venir écouter les populations afin de trouver des solutions à leurs préoccupations.
Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui dans la région de Kidal. Cette visite dans la région de Kidal, ici à Tessalit, s'inscrit aussi dans notre ferme volonté et engagement de faire en sorte que l'accord pour la paix et la réconciliation puisse être non seulement mis en œuvre, ça puisse être le cas de façon diligente et pour le bonheur des populations.
Après l'étape de Tessalit, le Premier ministre et sa délégation sont arrivés à Kidal. Visite sur la notabilité et installation au niveau du gouvernorat de la ville. La jeunesse donne son avis par rapport à la situation de Kidal.
Les services sociaux de base, c'est un problème crucial ici à Kidal. On a un problème d'électricité, de l'eau et surtout de l'éducation.
Bénéficier de tout ce qu'un Malien a comme droit.
Le même droit qu'a les Maliens de Kidal, c'est le même droit qu'un Malien de Kidal doit avoir.
Cette deuxième journée de la visite du Premier ministre Boubou Cissé va s'articuler autour de la rencontre avec l'armée reconstituée au camp 1, la rencontre avec les chefs de mouvement signataires de l'accord d'Alger et des forces vives de la ville de Kidal. Kidal, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram, est dans la ligne de mire de Washington. Le département d'État américain offre une récompense pouvant aller jusqu'à 7 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA, pour des informations pouvant conduire à son arrestation. Les explications de Gilbert Tomba à Abuja.
Ce n'est pas la première fois que les États-Unis offrent des récompenses pour l'arrestation du chef du groupe Boko Haram. En 2013, l'administration de l'ex-président Barack Obama avait promis la même récompense. La tête de Shekau est à nouveau mise à prix, mais il est difficile de dire où se trouve l'homme le plus recherché du Nigeria, encore moins savoir s'il est encore vivant. Il a déjà été annoncé mort à plusieurs reprises, mais est souvent réparu dans des vidéos comme pour narguer les pouvoirs en place. Aboubakar Shekau a pris la tête du groupe peu après le meurtre de Mohamed Diouf, fondateur de Boko Haram, tué par l'armée nigériane en septembre 2009 à Maïdougouri, en même temps que plusieurs de ses fidèles. Le mois dernier, Shekau a menacé le président Muhammadu Buhari de ne plus venir dans l'état de Borno suite au massacre de voyageurs dans la ville d'Ano. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et au moins 2 millions de personnes ont fui leur domicile. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ebola en RDC. La dernière patiente enregistrée est sortie mardi du centre de traitement d'Ebola à Beni. Qu'est-ce que cela signifie? Eddie Sango a posé la question au coordonnateur de la lutte contre Ebola, Dr Jean-Jacques Mouyembe.
Le dernier malade est sorti donc du CTE au 3 mars. Il a été testé négatif le 2 mars. Ça veut dire que maintenant, nous devons faire le compte à rebours qui commence donc le 2 mars. Nous devons continuer la surveillance attendre jusqu'aux 42 jours. Si vous faites des calculs, les 42 jours, donc ce sera le 12 avril. C'est seulement le 12 avril. Si nous n'avons pas d'autres incidents, le 12 avril, nous allons déclarer, bon, le ministre de la Santé de la RDC, l'OMS, vont donc déclarer la fin de cette épidémie d'Ebola.
Et ce n'est pas à partir du dernier cas enregistré, c'est-à-dire les malades qui se présentent à l'hôpital.
Donc à partir du jour où le malade n'est plus contagieux, ne peut plus contaminer, à partir du dernier test qui montre que le malade n'est plus contagieux.
Quelles sont les assurances que l'on peut avoir dans la mesure où on est dans un coin où il y a insécurité, où le déplacement des gens est difficile parfois et on peut avoir des malades dans des coins reculés, dans des villages?
Non, disons que l'assurance que nous avons, c'est d'abord les contacts, parce que nous devons suivre les contacts. Il y avait plus de 500 contacts et maintenant nous restons avec moins de 30 contacts à suivre. Ce qui veut dire que si ces contacts ont tous accompli les 21 jours de suivi, et là nous sommes plus ou moins sûrs qu'il n'y aura plus d'autres cas.
Au Soudan, la Banque centrale a annoncé hier que les États-Unis ont informé Khartoum de la levée de sanctions qui frappaient 157 entreprises du pays. Le point avec John Lindon.
Le gouverneur de la Banque centrale, Badreddin Abdelrahim, dit avoir reçu une notification de la décision américaine via le ministère soudanais des Affaires étrangères. La levée de ces sanctions signifie que les entreprises soudanaises concernées peuvent désormais avoir des relations normales à l'international. Il s'agit d'établissements bancaires qui ne seront plus soumis aux restrictions sur les transferts et les opérations avec l'étranger. Les relations entre Washington et Khartoum se sont détériorées peu après l'arrivée au pouvoir de M. Omar el-Béchir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Depuis, les États-Unis ont multiplié les sanctions économiques contre le Soudan, inscrit sur la liste noire des États soutenant le terrorisme depuis 1993. Washington a finalement levé ses sanctions en octobre 2017, tout en maintenant le Soudan sur la liste noire. Khartoum a annoncé début février que les États-Unis ont invité le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, à se rendre en visite officielle à Washington.
Le verdict du procès de l'opposant algérien Karim Tabou, figure de proue du mouvement de contestation populaire en Algérie, a été renvoyé au 11 mars, donc le mercredi prochain. Le procureur a requis une peine de 4 ans de prison ferme. Chef de l'Union démocratique et sociale, un petit parti d'opposition non enregistré, M. Tabou, 46 ans, est accusé d'incitation à la violence et d'atteinte au moral de l'armée. Il est en détention provisoire depuis fin septembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Cour pénale internationale a autorisé ce jeudi en appel l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan, dont des exactions qui auraient été commises par des soldats américains. La procureure Bensouda est autorisée à commencer une enquête sur des crimes présumés sur le territoire de l'Afghanistan depuis la période du 1er mai 2003. Cela annule la décision d'une procédure en première instance. L'avocat personnel de Donald Trump, Jay Sekulow, a quant à lui dénoncé une démarche de la procureure allant directement à l'encontre des intérêts américains. La défense aérienne syrienne a fait face à des missiles israéliens dans la nuit d'hier à ce jeudi dans le sud et le centre de la Syrie, selon l'agence de presse d'État Sana. Les missiles hostiles ont été immédiatement contrés avec succès. Aucun d'eux n'a pu atteindre sa cible, selon le communiqué. En sport, Patrice Baumel est le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. L'ancien adjoint d'Hervé Renard a été porté à la tête des éléphants. L'ancien président de la Fédération ghanéenne de football est inculpé d'escroquerie. Kwesi Nyatakyi a été mis en cause par une enquête journalistique réalisée en caméra cachée. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié en finale de la Coupe de France en corrigeant Lyon 5-1 hier. En Espagne, la Real Sociedad s'est qualifiée sans surprise pour la finale de la Coupe du Roi en s'imposant 1-0 chez Mirandes. Tottenham et José Mourinho ont été éliminés de la Coupe d'Angleterre par Norwich au tir au but 1-1. Et à l'inverse, Manchester City et Leicester se sont qualifiés. Tous les matchs de football pour toutes les compétitions et toutes les catégories se joueront désormais à huis clos de manière préventive en lien avec l'épidémie du nouveau coronavirus, selon la Fédération royale marocaine, donc c'est au Maroc. Et en Italie aussi, toutes les compétitions sportives, qu'elles soient publiques ou privées, y compris les matchs de football, devront aussi se tenir à huis clos jusqu'au 3 avril en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, selon un décret signé mercredi par le Premier ministre Giuseppe Conte. C'est ici que s'achève ce bulletin. Merci de votre aimable attention. Le prochain sera présenté par Henri Francisco.
De l'info sur VOA Afrique.